Depuis quelques mois, on assiste partout dans le monde à des mobilisations citoyennes de plus en plus nombreuses pour défendre le climat et pour contourner l'inaction des gouvernements. Des marches, des pétitions, des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Et parallèlement à cette contestation planétaire, les citoyens ont mis en branle la machine judiciaire. Judith Rochefeld est professeure de droit privé à la Sorbonne. Elle publie « Justice pour le climat » chez Odile Jacob, un ouvrage dans lequel elle évoque ses mobilisations et la notion de bien commun. Vous pouvez lui poser dès maintenant toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque sur les réseaux sociaux pour parler climat, mobilisation et responsabilité. Une nouvelle semaine pour Camille Passauvert, avec vous Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, aujourd'hui la rentrée, les jeunes et la ministre de l'écologie.
Après les infos, vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui Félix, un auditeur qui a installé avec un copain une ferme florale sur le toit de l'hôpital Robert Debré à Paris. Dans la deuxième demi-heure également, le premier épisode du reportage de la semaine, et c'est vous qui le signez, Célia Quiret. Vous êtes partie en Guyane pour la Terre au Carré, bonjour.
Bonjour Mathieu, et je vous emmène d'abord pour ce premier épisode en pirogue sur le fleuve Maroni, au cœur de la forêt guyanaise, pour constater les dégâts causés par la ruée vers l'or. Les Amérindiens en particulier sont très inquiets.
Et puis l'invité découverte est un géobiochimiste qui va nous parler des vertus de l'urine pour faire de l'engrais, tout un programme. Voilà donc le sommaire de cette Terre au Carré, réalisé par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Bonjour Judith Rochefeld.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de droit privé à l'école de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc vous publiez ce livre « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne » chez Odile Jacob. Et vous ouvrez justement ce livre en évoquant ces réunions nombreuses des citoyens qui se multiplient pour réclamer donc des mesures de protection. Une colère verte qui marque un moment particulier de notre rapport à la nature et à ceux qui nous gouvernent selon vous.
Oui, tout à fait, et c'est une colère qui est spécifique aux jeunes, donc ça c'est tout à fait notable, et on va retrouver ces mêmes jeunes dans des actions citoyennes devant les tribunaux en priorité, comme par exemple aux États-Unis où 21 jeunes de 9 à 20 ans ont entamé des actions au nom d'un droit à vivre dans un système climatique durables, soutenables, qui leur permettent de prolonger leur vie. Et puis, non seulement ils agissent pour eux-mêmes, en représentant les générations présentes, mais ils se sont associés avec un représentant des générations futures. Donc on a une forme de mobilisation citoyenne dans la rue, où les jeunes sont très présents, et devant les tribunaux, où les jeunes sont également très présents, que ce soit aux États-Unis ou en Colombie, d'autres actions où on a des jeunes devant les arènes judiciaires.
Ouais,
ça n'est pas la seule forme,
ouais,
bien sûr.
Ce sont vraiment uniquement les jeunes aujourd'hui qui emmènent le mouvement, parce que quand on va justement aux manifs pour le climat, par exemple, dans toutes les villes de France, il y en a eu, il y en a encore, on s'aperçoit qu'il y a toutes les générations quand même qui sont présentes.
Oui, non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il était très marquant au début de ces actions. C'est une salve d'actions qui avait déjà eu lieu au début des années 2000. En 2005 aux États-Unis, quand le président Bush n'avait pas ratifié les accords de Kyoto, l'un des accords, protocoles d'accord pour protéger le système climatique. Il est vrai que ce qui était marquant, c'est cette représentation des générations futures. Alors maintenant que ce sont les générations présentes, que c'est notre présent de subir les changement climatique, on n'a plus cette projection de façon aussi évidente. Donc non, pour répondre à votre question, ce ne sont pas que les jeunes qui agissent devant les tribunaux. Il y a trois types d'actions qu'on peut à peu près cartographier. Une action contre les États, des jeunes et des moins jeunes, pour une grande catégorie, je dirais, de fautes qu'on appelle l'inaction climatique. Les États ne feraient pas suffisamment pour protéger le système climatique. On a des actions contre les entreprises, et notamment les 90, qu'on appelle carbon major, c'est-à-dire les entreprises pétrolières et cimentières, qu'on essaye de relier à ces changements climatiques et à leurs conséquences néfastes. On essaye de relier leur activité, ce qui n'est pas du tout évident. Et là, on a par exemple des villes ou des États qui agissent. La ville de New York a agi contre des carbon majors pour demander non pas une indemnisation, c'est ça qui est très surprenant, mais une participation aux 20 milliards de dépenses qu'implique l'adaptation de ses côtes, parce qu'elle prévoit une inondation tous les 5 ans du fait du changement climatique et de la montée des eaux. Donc on a une sorte de procès qui est vraiment très, très intéressante et très nouvelle. Et on a un troisième type d'action qui, pour les Européens, les Américains du Nord, ce type d'action est très très surprenant. Ce sont des actions qui demandent à ce que des entités naturelles, comme l'Amazonie pour la Colombie, soient reconnues comme des personnes, comme des sujets de droit, et comme telles, soient protégées contre la déforestation. Et ce qui est très très marquant en Colombie, hein, où cette action...
Donc la forêt amazonienne est une personne en Colombie.
Alors, en Colombie, on a un mélange de toute une palette d'argumentations, puisqu'on a eu 25 jeunes à nouveau qui ont agi au nom de leur propre droit à vivre, à s'alimenter, à boire, à avoir de l'eau pure, parce que le changement climatique remet en question toutes ces prérogatives, tous ces droits. Donc ça, c'était la première chose. Mais effectivement, que l'Amazonie, la partie colombienne de l'Amazonie, soit reconnue comme une personne pour qu'on en stoppe la déforestation. Et cela a été reconnu le 5 avril 2018, donc c'est tout à fait récent, avec en plus un dernier prolongement qui est très remarquable dans les affaires colombiennes, dans l'affaire colombienne, c'est qu'on a renvoyé l'organisation de la protection aux municipalités, aux territoires, aux communautés les plus intéressées par la forêt amazonienne.
Ouais, alors le Brésil, évidemment, n'en est pas là du tout, hein.
Non, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment au Brésil, effectivement, où ces actions ont beaucoup de mal à se développer, où on n'a pas la même approche en ce moment, effectivement, de la forêt amazonienne.
Alors, est-ce qu'il est simple, justement, de désigner le responsable dans ce domaine de la dégradation du climat? On prend une entreprise, par exemple, Shell, tiens, par exemple. Est-ce qu'il est aisé de pouvoir dire exactement quelle est la responsabilité de Shell dans la part attribuée, justement, au réchauffement climatique?
C'est très très difficile. Shell est un très bon exemple parce que aux Pays-Bas actuellement, où il se produit, où se développe ce type d'action de façon vraiment remarquable, Shell vient d'être enjointe précisément par 17 000 citoyens, par des associations, par 17 000 citoyens.
Il y avait 6 ONG au départ.
Hein. Exactement. Rejoint par cette communauté de citoyens, c'est aussi ça qui est frappant dans ces actions, justifier sa politique en partie de lobbying et son inaction climatique sur fond de pourcentage de participation à la dégradation climatique. Mais pour revenir à votre question, c'est très difficile en fait de relier à l'activité d'une des carbon majors la dégradation du climat. Mais ce qui a changé dans les dernières années, ce sont des rapports de scientifiques qui modélise la participation de chacune des entreprises avec deux phases historiques, sans entrer dans le détail, qui modélise cette participation à la dégradation du climat. Mais pour l'instant, il faut le dire, ce n'est pas sur ce terrain qu'on arrive à retenir une responsabilité.
Mais la science joue un rôle important, donc effectivement, sur laquelle on peut s'appuyer et pour mener ces actions. Alors il y a une notion très très importante, celle de commun ou de bien commun. D'ailleurs, vous distinguez bien les deux et qui, selon vous, en tout cas en ce qui concerne la protection du commun, est absolument centrale dans l'idée justement de mener des procès.
Alors, pour l'instant, elle ne l'est pas. Et ça a été toute mon interrogation, puisque je viens plutôt des recherches sur les communs que du climat. Et quelle était l'interrogation de départ? C'est qu'on a cartographié dès le début une préoccupation commune de l'humanité. Dans la première convention cadre des Nations Unies sur le climat, en 92, on avait cette idée de préoccupation commune de l'humanité à laquelle chacun des États devait participer. De COP en COP, on a eu le constat que ça n'était pas suffisant, si je résume. Et là, les citoyens sont en train, sur chacun de leur territoire national, de mener des actions pour faire vivre cette idée, en demandant des comptes, mais plutôt sur leurs droits fondamentaux. J'ai le droit de vivre dans un système climatique soutenable, j'ai le droit à une part de l'atmosphère pure, ce type de droit où j'ai le droit de vivre, tout simplement, le droit à la vie, le droit à la dignité, on a tous ces droits qui sont actionnés. Ce que je proposerais de mettre dans le débat, c'est cette idée, effectivement, non pas de commun, parce que ça veut dire une organisation collective de gestion de cette ressource, mais de bien commun, qu'on doit protéger comme tel, à laquelle, auquel chacun est intéressé, a droit à un usage, a droit à la préservation, et éventuellement de sanctionner les abus.
Et vous dites que c'est un levier qui serait très efficace, finalement, au cœur, en tout cas, de ces tentatives.
Pour l'instant, il n'est pas du tout, parce que ce sont des arguments à construire.
C'est pour ça que j'emploie le conditionnel.
Voilà. Mais il pourrait se faire acclimater si on en avait la volonté, mais sans garantie, bien entendu. Hein, c'est une proposition.
Judith Rochefeld, vous êtes notre invitée justice pour le climat avec ces nouvelles formes de mobilisation citoyenne. C'est évidemment très passionnant à étudier de près cette notion de bien commun et puis la responsabilité sur cette question climatique. Les auditeurs vous interpellent, vous posent des questions 01 45 24 7000 également sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert, Camille Cronier, ça n'a échappé absolument personne. Rentrée scolaire ce matin, et donc vous êtes allée parler écologie avec les élèves.
Oui, la rentrée scolaire, c'est un peu comme le premier de l'an, une nouvelle année qui commence, et donc, plein de bonnes résolutions.
Plus jeter mes mégots par terre, parce que enfin, je sais que ça pollue ça.
Moins d'eau sous la douche.
Pas prendre de sacs en plastique, par exemple, où on prend le goûter, de plus prendre des boîtes.
Toi, ce serait quoi ta bonne résolution ?
La rentrée, d'acheter des pommes potes.
Avoir pas de cahier, donc du coup, pas travailler.
Non, mais du coup, pour la planète.
Du coup, comme ça, on coupe moins d'arbres.
Avant, à mon anniversaire, je mangeais genre 15 merguez. Là, on en a acheté moins et j'en ai mangé 4.
Wow. Alors non, on se moque pas, chaque geste compte, d'autant que tous ces enfants, écoliers, collégiens ou lycéens, sont archi conscients des enjeux environnementaux en répétant le même refrain.
Faut être plus écologique sur l'eau, sur ce qu'on consomme, sur les papiers, pour faire le tri à la poubelle.
Du bon sens, bien intégré donc, et partagé aussi par la ministre de l'écologie, enfin de la transition écologique, que j'ai croisée dans les couloirs. C'est pratique, dis donc, d'être à France Inter.
C'est quoi, vous, vos petits gestes simples du quotidien, vous, Elisabeth Borne?
Vous savez, c'est de trier, je pense que ça passe par là.
Ça, c'est normal.
C'est quand je peux de prendre les transports en commun ou de faire du vélo.
Et ben voilà, l'exemple venu d'en haut, transmis à la jeunesse porteuse d'espoir pour l'avenir de notre planète. C'est beau, tant d'harmonie.
Je pense que c'est effectivement ensemble qu'on va réussir cette transition écologique.
Et ben top, jeune et ministre, main dans la main, parfait. Enfin presque, on a un tout petit problème.
Est-ce que vous savez qui est Elisabeth Borne ?
Non. Non, pas du tout.
Non, alors là.
Elisabeth Borne ?
C'est qui ? C'est vous ?
Je suis à fond dans l'environnement et tout, mais alors je connais pas du tout Elisabeth Borne.
Aïe, aïe, aïe. Aucun de ces jeunes ne la connaît. Bon, après tout, ils ne connaissent peut-être pas son nom, mais c'est plutôt ce qu'elle symbolise, ce qu'elle incarne qui compte. Donc j'ai tenté autre chose.
Qui est ministre de l'écologie en France ?
Ah, putain, je la connais.
Nicolas Hulot.
Hulot.
Eh non, ni Hulot, ni Hulot. Un an de retard, les gars. Nicolas Hulot a démissionné. Il y a eu François de Rugy, entre-temps, qui a démissionné aussi. Elisabeth Borne, inconnue donc au bataillon, alors que ces jeunes sont aussi sa cible, son public. Ils font partie, dans les derniers sondages sur les Français et l'écologie, des plus optimistes pour la planète. Et même 9 sur 10 se sentent de plus en plus concernés. Du coup, j'ai voulu savoir si au moins elle en était consciente.
Les jeunes ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes.
Bon, écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de débattre avec les jeunes, avec plaisir.
Comment vous allez vous faire connaître des jeunes ? Ils ne connaissent pas Elisabeth Borne.
Voilà, alors là, ce qui s'est passé, c'est simple. Voilà, son équipe l'a emmené dans l'ascenseur, pas content, visiblement, de découvrir cette dure réalité. On n'en saura donc pas plus, mais vous avez entendu, elle a quand même parlé de débattre avec les jeunes et avec plaisir. Donc, je me suis permis, Mathieu, de lancer les choses.
Qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander ou de lui dire ?
Madame la ministre, bougez-vous, quoi. C'est voilà. Ça.
De parler plus d'elle-même et de ce qu'elle veut faire, toucher les jeunes, parce que c'est nous les plus concernés.
Bougez-vous, il faut se remuer tout de suite, maintenant, pas dans 10 ans.
Vous attendez quoi d'elle ?
On attend à ce qu'on... Elle nous dise quoi faire et qu'elle fasse aussi avec nous. Pas comme un patron, mais plus comme
une sorte
de coéquipière.
Voilà, le travail d'équipe, mais pour ça, il va falloir arrêter de se défiler dans les ascenseurs. Mmh. Et peut-être, allez, soyons fous, défiler tout court le vendredi, par exemple. Je voudrais vous poser la question, est-ce que les technocrates, les dirigeants, sont dépassés finalement par l'écologie et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les identifier, en tout cas la jeunesse ?
Judith Rochefeld, pour répondre à Camille Cronier.
Alors... Je ne sais pas s'ils sont dépassés. En revanche, ce qui se passe, c'est l'un des effets de ces actions, parce que loin de là, toutes ne réussissent pas actuellement, ne débouchent pas sur une injonction à un État d'agir en faveur du climat. Mais l'un des effets très importants de ces actions, c'est une mise en conscience des populations, c'est-à-dire une conscientisation des populations qui n'ont pas entendu encore parler de la dégradation du système climatique ou à ce point. Ça, c'est le premier effet. Et puis, une pression sur les pouvoirs publics, puisque certaines actions n'aboutissent pas à une décision de forcer l'État à faire quelque chose de plus, ou par exemple dans l'affaire de Londres et d'Israël à supprimer l'autorisation d'étendre l'aéroport d'Israël, mais le gouvernement britannique a changé de politique du fait de ces actions. Donc ces jeunes et ces actions de façon générale, parce que je répète, ce ne sont pas que les jeunes, ont en tout cas un impact sur les pouvoirs publics.
Mais qu'est-ce que ça dit du dialogue justement entre les politiques et les citoyens? Le contrat social rompu, ça revient très très souvent justement.
Alors ça c'est un argument vraiment passionnant parce que dans par exemple les procès suisses, des aînés pour le climat, donc des personnes âgées qui agissent en se prétendant les plus touchées par le climat mais en agissant pour les autres, l'un des arguments c'est le contrat social. C'est-à-dire le contrat social est rompu parce que vous nous devez protection contre le respect de votre autorité. Ça, c'est un argument quand même très intéressant à voir apparaître en justice, au même titre qu'une responsabilité historique des grands pollueurs par rapport à des pays qui le seraient moins.
Allez, Judith Rochelle, vous êtes notre invitée cet après-midi dans la Terre au Carré, justice pour le climat, et vous dialoguez avec les auditeurs qui nous rejoignent au standard de France Inter 01 45 24 7000. C'était The Black Keys à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Judith Rochefeld, justice pour le climat et ses nouvelles formes de mobilisation citoyenne et donc les recours en direction de la justice qui sont nombreux aujourd'hui. Ce livre paraît chez Odile Jacob et les auditeurs souhaitent en parler avec vous au 01 45 24 7000 comme Violaine qui est avec nous. Bonjour Violaine.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors je voulais vous faire une petite remarque, les publicités.
Allô? Ah, le coup de fil a coupé visiblement.
Je vous appelais parce que il y a des traités comme le CETA, le TAFTA et d'autres traités internationaux qui permettent aux multinationales de faire appel à des tribunaux arbitraux contre les États s'ils considèrent que les actions qui sont mises en œuvre par les États peuvent aller à l'encontre de leurs bénéfices. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les actions engagées, notamment par votre invité?
Alors, Judith Rochefeld, d'abord, vous n'avez pas engagé forcément des actions vous-même. Vous décrivez qui le sont, en tout cas, à travers le monde.
De façon plus générale, pour répondre à cette question, le constat est le suivant. C'est que les traités commerciaux et les traités environnementaux ont suivi des voies parallèles pendant des années. C'est-à-dire que, de façon délibérée, c'est ce que démontrent par exemple Ami Dahan et Stéphane Ayouk, hein, qui ont étudié 20 ans de gouvernance du climat, de façon délibérée, on a mis les problèmes environnementaux de côté, sans s'en préoccuper dans les traités commerciaux. Et que les dernières annonces, par exemple sur le Mercosur, l'accord avec l'Amérique latine, de l'Europe, ou du président Macron, de ne pas forcément les ratifier si jamais les problèmes environnementaux n'étaient pas pris à bras le corps pour l'Amazonie, par exemple, c'est un croisement qui est assez inédit, ou en tout cas qui montre une évolution importante. Donc pour répondre à la question, effectivement, on a construit ces traités commerciaux sur une voie parallèle à celle des traités environnementaux, sans faire le croisement, et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, où on se dit, effectivement, le bœuf brésilien avec son empreinte carbone devrait être entré dans le décompte des équilibres commerciaux environnementaux.
Et on voit un changement des priorités très clair aujourd'hui. C'est plus possible d'ignorer toutes ces questions, d'ailleurs, qui irriguent plus largement l'environnement et la question du climat, par exemple.
Je crains qu'il y en ait beaucoup qui l'ignorent, mais effectivement, on voit des croisements qui n'étaient pas si évidents à faire il y a quelques temps encore.
Ouais. Merci pour votre appel, Violaine. Lise, sur franceinter.fr, nous a envoyé ce petit message. Elle a signé la pétition de l'affaire du siècle au printemps dernier. Pensez-vous que cette procédure lancée contre l'État pour inaction climatique est une chance de déboucher sur du concret? Et où en sommes-nous? Alors, petit point justement sur cette affaire que vous décrivez évidemment comme l'une des plus emblématiques en France.
Pour la France, oui. Alors le recours a été déposé le 14 mars 2019. C'est très intéressant. Effectivement, la France a été longtemps à l'écart des actions parce que on a un parc nucléaire qui fait que les émissions ne sont pas exactement les mêmes, mais on est en retard sur la diminution et sur l'adaptation au changement. Ça, c'est ce que le Haut Conseil au climat a bien démontré en juin dernier. Donc, en décrivant tous les retards, l'action a été portée. Ce qui m'apparaît très important dans cette action, c'est effectivement qu'il y avait la communauté de 2 millions de personnes derrière, même s'ils ne sont pas en justice avec les quatre associations qui agissent, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et notre affaire du siècle. On a quand même une communauté de citoyens qui s'est sentie concernée, très concernée par l'action.
Et on ne peut pas l'ignorer.
Et qui porte cette action avec, encore une fois, même si ce n'est pas officiellement devant le tribunal. Et on a eu une description des retards de la France dans sa stratégie bas carbone et deux choses. Une tentative de faire reconnaître un principe fondamental que chacun a le droit de vivre dans un système climatique stable ou durable. Et la deuxième chose, reconnaître qu'il y a un préjudice écologique du fait de cette inaction de l'État.
Voilà, donc ça a servi quand même, évidemment, cette mobilisation par la signature est absolument indispensable aussi. Camille.
On a Eliott qui nous demande, est-ce que des particuliers ou des associations peuvent attaquer en justice des multinationales ou des États pour écocide? Est-ce que l'écocide aujourd'hui, par exemple, est reconnu en France?
Alors, c'est une ancienne discussion qui date même des années 40-50, quand on avait les traités de crimes de guerre. Est-ce que l'écocide, le crime de la maison, le crime à la terre pourrait être connu au même titre? Pour l'heure, il y a beaucoup de mobilisation de juristes sur cette question. On a même eu une discussion très très récente à l'Assemblée nationale française sur cette reconnaissance, mais qui n'a pas été admise.
Donc ils peuvent pas attaquer ni multinationales.
Il y a des crimes contre l'environnement dans le code pénal. L'une des directions pour laquelle on a rejeté devant l'Assemblée nationale l'écocide, c'était précisément de dire il faudrait mobiliser plus les juges sur les crimes environnementaux qui existent déjà dans le code pénal.
Christian est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Christian.
Voilà. Alors moi, je suis responsable associatif depuis une trentaine d'années. Et ce que je remarque, c'est qu'effectivement les jeunes aujourd'hui sont très très sensibles à l'environnement. Ils sont présents et actifs dans toutes les grandes manifestations françaises, européennes, mondiales. Mais concrètement sur le terrain, malheureusement, on ne les voit pas. Donc dans les années 70-80, il y avait beaucoup de jeunes dans les associations de terrain. Et aujourd'hui, ces associations sont vieillissantes. Et malheureusement, la relève n'est pas assurée. À quoi nous servons, nous, associations? Eh bien, concrètement, nous décarbonons autant que possible. On attaque en justice des préfets, des maires, des collectivités territoriales qui veulent aménager en bétonnant encore plus. La France bétonne l'équivalent d'un département par année. Et on gagne, on peut gagner sur le terrain. On s'oppose à des constructions d'autoroutes, de voies rapides intracitées, des décharges sauvages, enfin des nuisances à la nature. Et on a fait condamner le préfet de la Haute-Savoie il y a quelques années, le ministère de l'Agriculture, des maires, dernièrement maire d'une commune de Haute-Savoie, Cruzeil, qui avait déjà aménagé une piste de quad en zone protégée. Voilà, et donc je lance un appel à la jeunesse qu'elle crée des associations.
En fait, c'est pas une question, c'est un appel.
Avec des statuts juridiques permettant d'ester en justice.
Alors Judith Rochefeld, est-ce que vous trouvez que les jeunes manquent justement d'initiatives dans ce domaine ?
Bon, moi je suis pas sociologue, hein, je tiens à le dire, donc ça ne relève pas forcément de mes compétences. Ce que je constate, c'est que certaines des actions très emblématiques, comme en Colombie ou aux États-Unis dont on a parlé, ce sont des enfants. Des jeunes, des enfants, des adolescents qui ont agi, qui ont incarné une génération présente et future en justice. La deuxième chose, c'est que je pense que, et là encore une fois, j'avoue mes limites n'étant pas sociologue, c'est qu'ils ont d'autres formes de mobilisation.
Bien sûr, et vous les citez, il y en a énormément.
Associatives, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit ponctuelles pour ramasser des déchets ou appeler à certaines actions. Donc il y a peut-être juste un croisement à faire entre deux types d'actions.
Daniel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'appeler la Terre au carré, on vous écoute.
Oui. Alors, vous avez déjà ma question ou je la repose ?
Ah, il faut la reposer parce que moi, je ne sais pas lire.
Voilà.
Voyez, donc,
je me pose un problème juridique. La crise climatique met en péril l'existence même de l'humanité. Or, il existe la possibilité de considérer l'action pour dégrader le climat de la planète comme un crime contre l'humanité. En vertu de la jurisprudence de Nuremberg, ce crime est rétroactif, puisqu'on a condamné pour cela les dirigeants nazis alors que la définition n'était pas donnée, et il est imprescriptible. C'est-à-dire que toutes les manœuvres destinées à éviter l'engagement de la responsabilité des coupables seraient vaines si c'était fait.
Alors, une réponse de Judith Rochefeld là-dessus. Un point de droit, peut-être, pour être tout à fait précis par rapport à ce que vient de nous dire Daniel.
Un point de droit, c'est peut-être que le lien qui est fait par notre auditeur entre un plan concerté d'extermination de l'humanité et des inactions n'est pas si évident à faire. Donc là, j'ai l'impression qu'on est assez rapide sur le fait qu'on puisse considérer qu'il y a organisation d'un crime contre une partie de l'humanité.
Oui. Est-ce que les recours aboutissent souvent ou est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échecs justement en la matière ?
Tout dépend de ce qu'on considère comme des échecs. C'est-à-dire que ce soit vis-à-vis des entreprises ou vis-à-vis des États, on a quelques victoires, c'est-à-dire de procès qui aboutissent à ce qu'ils avaient demandé. Un exemple, c'est celui de la Fondation Roganda et de 886 citoyens néerlandais qui ont enjoint à leur État de respecter la trajectoire de diminution des gaz à effet de serre que l'État avait acceptée dans l'accord de Paris. Donc d'être à moins 25% en 2018, alors que la trajectoire n'était pas du tout celle-là. Donc ça, c'est effectivement une victoire au sens où ils ont abouti dans ce qu'ils avaient eu comme demande à la base. Il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas aussi favorables, mais elles ont d'autres effets. C'est-à-dire de mise en conscience des populations, parce qu'on en parle beaucoup, de pression sur les pouvoirs publics. Et l'une des tensions de ces actions, c'est précisément de rappeler que l'intérêt général de chaque État comprend la protection de nos biens communs environnementaux.
Une question de Manu sur Twitter. Vous parlez beaucoup du commun climatique. Quelles sont les actions en France actuellement concernant le commun air respirable et le droit notamment pour nos enfants à respirer un air garant de la meilleure santé possible? Ça, c'est vrai que c'est une question qui préoccupe énormément. Dans ce domaine, pareil, quels sont les recours juridiques?
Alors, il y en a également, c'est-à-dire que pas plus tard que très récemment, le 25 juin 2019, une mère et sa fille qui habitaient à côté du périphérique ont obtenu gain de cause en démontrant qu'elles avaient été intoxiquées par un air qui était pollué au-delà des seuils fixés par l'État français comme devant être respectés. Et elles ont obtenu effectivement une indemnisation en démontrant que le fait de ne pas avoir été suffisamment volontariste dans cette politique leur avait causé un préjudice.
Merci beaucoup de votre venue, en tout cas Judith Rochefeld. Justice pour le climat, donc les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, c'est un ouvrage que vous signez et qui paraît aux éditions Odile Jacob. Juste après les infos, vos solutions pour la planète. Aujourd'hui, Félix viendra nous parler de sa ferme florale qu'il a installée sur le toit d'un hôpital parisien. Vous écoutez France Inter, bon après-midi, les 14h.
La Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, le premier reportage d'une série consacrée à la Guyane avec Célia Quiret. Et puis notre invité découverte est scientifique et il va nous parler tout à l'heure phosphore, azote et urine pour faire un engrais très écologique. On a hâte d'en savoir plus.
Ah, mais moi j'adore, je parlais des toilettes sèches la semaine dernière, on va en savoir encore plus.
Mais pour le moment, vos solutions pour la planète avec vous, Félix, bonjour.
Bonjour, bonjour Mathieu.
Bonjour. Bonjour.
Vous nous appelez de Paris et vous êtes jardinier et cofondateur de la ferme florale des Lilas à Paris qui depuis le mois de mai dernier s'est installée sur les toits terrasses de l'hôpital Robert Debré à la Porte des Lilas à Paris, donc dans le 19e arrondissement. Vous êtes jardinier de formation, vous, Félix ?
Non, enfin, au départ j'étais ingénieur de formation et j'ai pris un congé sabbatique il y a 2 ans pour réfléchir un peu aux enjeux du monde qui vient et de fil en aiguille j'en suis arrivé à m'intéresser donc au problème de l'énergie, à l'agriculture, puis à l'agriculture urbaine et voilà. Donc après j'ai fait une formation en agriculture urbaine, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, sur lequel il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Et donc c'est à l'école du Breuil et c'est là que j'ai rencontré Tranfi, avec qui on a monté ce projet de ferme florale urbaine en travaillant au départ, comme je la cite parce que c'est important, avec Nathalie qui était la madame flore de la promo et c'est elle qui nous a vraiment sensibilisés à ces problèmes de flore et c'était vraiment son rêve au départ de créer ces fermes.
Donc vous êtes passé d'ingénieur dans les télécommunications à jardinier sur les toits d'un hôpital parisien. Vous avez un drôle de destin quand même, Félix. Et alors du coup, vous faites ça avec votre copain là. Et alors le projet, c'est quoi exactement pour vous alors?
Alors le projet, il y a 2 volets. La base du projet, c'était de trouver un moyen de végétaliser les villes en proposant un modèle économique qui soit viable. Donc d'investir des lieux. Là, typiquement, c'est dans un hôpital, il y a des terrasses qui sont délaissées. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on cultive des fleurs dessus. Ça permet en fait de créer des jardins dans l'hôpital sur lequel on s'installe sans que ça coûte un seul centime à l'hôpital. Et l'autre volet du projet, c'était de travailler sur les fleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci écologique et aussi autour des fleurs, puisqu'il y a la plupart des fleurs aujourd'hui sont importées, elles viennent de loin, elles voyagent par avion, par camion, et on veut nous défendre la production florale locale et créer des emplois en fait de floriculteurs en ville, donc en cultivant des fleurs en ville au plus près finalement des clients finaux, des fleuristes.
Et du coup, ces fleurs que vous cultivez sur le toit de l'hôpital, vous en faites quoi après? Vous les vendez?
On les vend, oui, on les vend à des fleuristes. Et aussi en direct, donc en bouquet, à la commande. Mais on les vend aussi en fleuriste. Le but, c'est vraiment de proposer une offre professionnelle pour les fleuristes avec des tiges de qualité. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment nous de produire des fleurs de grande qualité. On fait tout à la main. On n'utilise pas de produits. On se rapproche le plus possible de la nature. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail ou de technique derrière. Simplement, c'est on travaille un peu les fleurs différemment.
Ouais, mais Félix, qu'est-ce qu'on trouve localement sur le toit de l'hôpital Robert Debré à Paris comme fleurs du coin? C'est quoi finalement ce
Alors quand je dis fleurs locales, c'est pas des variétés ou des espèces locales, c'est des fleurs cultivées localement.
D'accord.
Si on ne s'intéresse qu'aux espèces endémiques, on va pas avoir grand-chose.
Ça me paraissait étrange.
On travaille aussi sur des variétés horticoles. On veut aussi nous sensibiliser et expliquer tout le travail qu'il y a donc à la fois sur la partie horticulteur, mais aussi sur les obtentions. C'est vraiment un domaine totalement passionnant. Il y a des variétés qui s'obtiennent, qui se transmettent de génération en génération, qui parfois sont perdues parce que ça n'intéresse plus personne, alors qu'au contraire, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire.
Par exemple,
nature accompagnée, c'est un travail.
Sur quelle fleur un peu délaissée vous travaillez aujourd'hui?
Alors nous, là, on a sur le toit, on a 38 espèces et plus de 120 variétés. Pas mal. on ratisse assez large. En fait, nous, ce qui compte, en fait, donc il y a par exemple des espèces qu'on trouve un peu moins, comme je pense à la molucelle ou au grand méliné, à la sérinthe majeure. C'est des tiges qu'on trouve moins dans le circuit traditionnel ou à la fleur de tabac. Mais il y a aussi un travail à faire avec les fleuristes, parce que quand nous, on va proposer certaines tiges, par exemple, certains vont dire « Ah oui, si, ça je connais », et puis d'autres « Ah non, mais ça je connais pas bien ». Donc il y a un échange en fait à avoir avec les fleuristes, parce qu'il y a aussi un vrai travail de l'art floral, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est justement travailler avec des fleuristes qui nous encouragent à travailler des variétés qu'eux ne trouvent plus ou ne trouvent pas, et de façon à ce qu'on puisse produire pour eux directement.
Mais alors vos variétés, vous les trouvez où du coup? Je remonte encore la chaîne, mais si vous allez chercher, je sais pas, de la fleur de tabac à l'autre bout du monde, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le principe de base?
Ouais, alors si on va essayer, enfin nous, notre volonté effectivement, c'est d'être le plus vertueux possible. Alors pour l'instant, sur les annuels, on a travaillé qu'à partir de graines, et les graines, on s'est fournis pour partie en France et pour partie en Angleterre. Mmh. En Angleterre, parce que ils ont une histoire horticole assez incroyable, et c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup plus de variétés différentes qu'en France, en tout cas dans ce que nous on connaît pour l'instant. Après, par exemple, sur les dahlias, on a eu un don de Johan Beaumont, qui est un spécialiste des Français, français des dahlias, qui nous a donné lui des tubercules qui cultivait chez lui. Donc lui, c'est un collectionneur, donc on a des plants collectionneurs. Mmh. Et le but, nous, c'est d'arriver à créer petit à petit un réseau de passionnés qui possèdent chez eux ou qui peuvent nous fournir ensuite soit des plants, soit des graines. Mais après, les graines, c'est difficile, parce que c'est un vrai métier d'être grainetier. Et bon, il faut aussi que derrière, ce soit suffisamment fiable pour qu'on puisse avoir une production de qualité.
Eh bien, c'est bien parce que
c'est un vrai sujet.
Ouais. Et puis c'est bien parce que, Félix, mine de rien, vous avez lancé plein d'appels à l'antenne en direction des grainetiers, des fleuristes également qui seraient à l'écoute et qui pourraient vous donner un coup de main pour avancer dans ce projet qui existe déjà de fleurs artisanales, produites évidemment sans produits chimiques, hein, c'était même pas la peine de le préciser. Et ça s'appelle la ferme florale urbaine .com, pour ceux qui souhaitent aller sur votre site, en savoir plus, et puis peut-être vous donner un coup de main pour avancer. Merci beaucoup, en tout cas, Félix. Merci à vous. Et puis, si comme Félix, vous avez une solution pour la planète, envoyez-nous vos initiatives sur la page de la Terre au Carré. Même chose, si vous avez besoin d'un coup de main, ou si vous avez envie de pousser un coup de gueule, eh bien, on est également là pour vous ouvrir notre antenne. Un nouveau reportage cette semaine dans la Terre au Carré. Nous partons aujourd'hui en pirogue sur le fleuve Maroni au cœur de la forêt guyanaise. Célia Kiré est avec nous. Rebonjour Célia.
Bonjour Mathieu.
La forêt amazonienne n'est pas en effet seulement menacée par les feux qui ravagent en ce moment le Brésil. Elle l'est également à cause de la ruée vers l'or, l'orpaillage bien souvent illégal. Où est-ce que vous nous emmenez exactement Célia?
Alors précisément sur ce fleuve Maroni, à la frontière entre la Guyane et le Suriname, nous allons rejoindre en pirogue les villages amérindiens de Tuenque et Taluen, où la population est très préoccupé en ce moment par les ravages de la ruée vers l'or, cet orpaillage illégal au mercure qui dévaste la forêt. À bord de la pirogue, je vous présente Pauline Aloïke, une jeune femme de 20 ans de la tribu des Wayana. Elle est piroguière, vit grâce au fleuve. Et Laurent Kell, le responsable de l'ONG WWF, le Fonds mondial pour la nature en Guyane, lui est venu constater à quel point cette pollution est problématique. On y va. Bon allez, c'est bon, je suis en place là.
Et on va démarrer.
Décollage.
iCompass, c'est on y va, c'est ça? Donc voilà, c'est le signal de départ officiel de cette mission. Et Pauline, donc jeune Wayana du village de Taluen, qui va être notre guide et qui a organisé toute la logistique. On est sur le fleuve transfrontalier Maroni, donc une rive est le parc national amazonien, le plus grand parc national français et européen. Et de l'autre, c'est le Suriname qui n'a pas du tout la même politique, que ce soit en termes de préservation de l'environnement ou de lutte contre l'orpaillage illégal. Et ça se voit très très vite, hein. Il suffit de remonter quelques instants le fleuve comme on le fait actuellement. Et on voit sur la rive surinamaise les sites de ravitaillement des orpailleurs illégaux qui font face au parc amazonien de Guyane. Là on arrive à la confluence avec la rivière Inini, donc une rivière qui remonte assez haut au sein du cœur du parc amazonien. Et on peut apercevoir d'ores et déjà une différence de couleur entre l'eau qui arrive de l'Inini, qui est extrêmement turbide, très chargée en matière en suspension parce qu'elle a été orpaillée illégalement. J'entends Pauline derrière nous qui dit que l'eau est sale, hein, c'est le terme couramment utilisé. Pauline, tu peux peut-être expliquer ce qui se passe sur le fleuve?
On l'appelle Maroni, mais là c'est plus un joli comme c'était avant. Et puis là, c'est très sale comme vous voyez là. Les Brésiliens, ils travaillent beaucoup en ce moment. Ça continue.
Là, on arrive où ?
On arrive à Twenke, c'est un peu la capitale du pays Wayana. Donc on va aller saluer le grand man, qui est l'autorité coutumière suprême au sein de la communauté Wayana.
Il dit que c'est surtout vers l'Hippolypo, les gens ils se font voler des bananes, des patates douces, tout ça. Maintenant, on n'est plus en sécurité là.
Pauline, je vais te poser une question. Donc toi, c'est ton village ici. Et le village s'appelle ?
Talouen.
Est-ce que sur la question de l'orpaillage illégal, oui. Est-ce que toi, depuis que t'es petite, t'as vu une évolution et vraiment les choses s'abîmer ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Par exemple, maintenant, et comme là, je suis enceinte, je ne peux plus manger les poissons qu'on mangeait avant par rapport à mercure, parce que ça crée beaucoup d'handicap, des malformations, tout ça, pour le fœtus. Ça donne des maladies, d'autres maladies aussi, surtout pour le bébé.
Il y en a ici des enfants qui sont nés avec des malformations ?
Oui, il y en a beaucoup dans tous les villages, peut-être deux ou trois enfants comme ça, qui sont nés comme ça, à cause de mercure. Avant, l'eau était buvable. Quand on se lave au fleuve, ça nous gratte la nuit. C'est plus comme avant. Oui, on est carrément oublié. Vous avez bien vu l'eau qui est très sale. C'est triste. La Guyane, c'est une grande forêt qu'on doit préserver parce qu'il y a beaucoup dans le monde aussi. C'est surtout là qu'il y a plus des Amérindiens, déjà qu'on n'est pas nombreux. On veut vraiment protéger tout ce qui est la nature parce qu'on a besoin de cette forêt-là pour vivre, quoi. Pour nos jeunes, l'avenir de nos jeunesses.
Et vous qui êtes là depuis longtemps, est-ce que le phénomène s'est accéléré ces derniers temps, là, ces dernières années ou ces derniers mois par rapport à il y a 10 ans ou...
Oui, ce qu'on observe, c'est qu'en gros, la politique de lutte contre l'orpaillage illégal elle est très cyclique. Hein, et dans la pratique, ceux qui se structurent réellement sur la durée, ce sont surtout les orpailleurs illégaux et leurs fournisseurs logistiques. Et donc sur la durée, clairement, c'est une bataille qui n'est absolument pas gagnée. Pendant qu'on est à une de ces portes, il y a à peu près 120 sites miniers illégaux au sein du parc amazonien de Guyane, ce qui reste bien sûr dramatique en termes d'impact sur la biodiversité, mais aussi dramatique en termes d'impact sur les communautés autochtones qui dépendent de cette biodiversité pour leur vie quotidienne.
Célia, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour tenter de sortir du mercure en Guyane ?
Oui, il y a bien une convention internationale destinée à sortir du mercure, mais tous les pays ne sont pas volontaires. L'enjeu est donc aujourd'hui surtout diplomatique, pour sauver cette forêt amazonienne. La France ne peut pas tout toute seule. Demain, nous serons avec les militaires français qui tentent de lutter contre cette ruée vers l'or totalement anarchique. Nous serons à Cacao, plus près de Cayenne cette fois.
Avec vos bottes en plastique et les moustiques qui vont vous accompagner.
Sous un déluge de pluie, vous l'entendrez.
Merci beaucoup, reportage de Célia Kiré. À réécouter sur France Inter. .fr et donc la suite de cette semaine guyanaise demain. Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre urine est une mine d'or. Urine et engrais, on en parle dans un instant avec notre invité découverte.
Ravi, cher ami. Jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, mon panique, mon magique. Des réponses à nos questions, si je suis largué, maintenant je sais. We'll be right back.
C'est une nouveauté sur France Inter. Malik Djoudi, Étienne Dao à tes côtés et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
C'est mon potager. Hein ? C'est moi qui ai fait tout ça. Les petits choux, là. Et la scarole. Et les poireaux. C'est de la cœur de bœuf. C'est de la noire de Crimée.
Et l'engrais ?
Quoi, l'engrais ?
Oui, l'engrais.
L'engrais. Vous pouvez goinfrer votre terre avec des tombeaux d'engrais, vous savez, si elle est mauvaise, elle restera mauvaise. Vous récolterez tout au plus 4-5 patates grosses comme des billes que si vous avez une terre noire, bien grasse, avec des mottes qui vous collent aux mains, là. Eh bien, cette terre-là vous donne tout ce qu'elle a dans le ventre. Elle n'a pas besoin d'engrais.
Mais en revanche, à défaut d'engrais synthétique, vous pouvez y mettre de l'urine, et ça c'est très sérieux, et c'est ce qu'on va voir avec notre invité découverte cet après-midi, Fabien Esculier, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes biogéochimiste, vous êtes chercheur au laboratoire Haut Environnement Système Urbain de l'école des Ponts Paris Tech, et vous travaillez sur un projet particulier autour de l'urine, c'est ça?
Exactement, donc il y a 5 ans, avec beaucoup de chercheurs, j'ai monté un programme de recherche, financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne, qui s'appelle OCAPI, Optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en ville, et qui cherche à voir comment on peut réinventer, en faisant une transition écologique, les systèmes alimentation et excrétion. Comment on s'alimente et que fait-on de nos excrétions?
Alors donc l'urine, c'est très sérieux, Camille. Hein,
mais
c'est un vrai sujet de recherche. Aujourd'hui, à l'heure évidemment, on cherche des alternatives à tous ces produits issus des ressources fossiles. Hein.
Exactement. Alors le principe fondamental, c'est que on a besoin, quand on est un humain, un mammifère, de s'alimenter typiquement en protéines. C'est un des besoins fondamentaux. Or, les plantes font les protéines. Une fois qu'on a ingéré ces protéines, on les excrète à 90% sous la forme d'urée dans l'urine. Et les plantes, elles, se nourrissent d'urée. Et à partir de l'urée, elles font des protéines. Donc si vous prenez une forêt, par exemple, un écosystème forestier, eh ben, l'azote tourne en boucle entre les animaux qui vont manger les végétaux et les végétaux qui vont faire des protéines à partir de l'urine. Aujourd'hui, dans les systèmes européens standards, occidentaux standards, on a complètement brisé ce cycle. On synthétise des engrais chimiques, de l'urée chimique, à grand renfort d'hydrocarbures fossiles, ce qui crée du changement climatique au passage. Derrière, l'urée qu'on excrète, pour protéger les rivières, on a construit des stations d'épuration, qui malheureusement aujourd'hui majoritairement détruisent cette urée parce qu'on n'a pas trouvé de façon de la récupérer. Et pour éviter que les rivières meurent, comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup d'endroits parce qu'on déverse directement, les stations d'épuration ne permettent pas de récupérer cette urée. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on trouve une manière d'avoir des cycles, des systèmes circulaires pour que ce qu'on a mangé d'un côté, on puisse le récupérer de l'autre part pour en faire des engrais et boucler le
cycle. Qu'on veut récupérer principalement, c'est de l'azote et du phosphore, c'est ça?
Alors voilà, c'est tous les aliments des plantes. Qu'est-ce que ça mange une plante, hein? Ça mange de l'azote, du phosphore, du potassium, etc.
Ouais. Et aujourd'hui, on a plein dans le pipi.
Exactement. Alors aujourd'hui, on prend de l'azote à partir de hydrocarbures fossiles, mais on prend le phosphore dans une mine de phosphore dans un pays étranger d'ailleurs, le potassium dans une mine de phosphore dans un pays étranger également, etc. On fait venir tout ça et on les met tous sur les champs. Dans l'urine, on retrouve 90% de l'azote qu'on a mangé, 70% du phosphore qu'on a mangé, plus de 80% du potassium qu'on a ingéré. Donc on a en fait l'ensemble de ces nutriments qui sont dedans. C'est normal, tout ce qu'on mange, on le réingère, hein, on pèse aussi lourd au début de l'année qu'à la fin, donc c'est que finalement, ce qu'on a fait rentrer, d'une manière ou d'une autre, il est ressorti.
Il peut y avoir aussi des choses mauvaises, j'imagine, dans les urines des médicaments, de la drogue, que sais-je encore.
Alors exactement, dans les urines, il y a deux principales substances indésirables. La première, c'est les pathogènes. On peut avoir des éléments pathogènes qui transmettent des maladies dans l'urine, mais en fait, il y en a très très peu. C'est principalement dans les matières fécales qu'on les trouve. Et donc, dans le principe de réutiliser les excrétions, il y a beaucoup de préconisations passées ou encore existantes qui disent faites attention, il ne faut pas réutiliser nos excrétions parce qu'elles sont dangereuses. C'est vrai pour les matières fécales,
ouais.
Mais finalement pour les urines, c'est beaucoup moins vrai. Et un simple stockage de l'urine permet de l'hygiéniser. Donc l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande des durées de stockage quand on collecte de l'urine à grande échelle, qui permettent de garantir que l'usage de l'urine et des modalités d'application également, mais qui permettent de garantir que ce soit salubre.
Donc ça, c'est un petit conseil pratique au passage. Si on a décidé d'utiliser l'urine donc pour arroser son jardin, son potager par exemple, il faut attendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on
On est sur un usage domestique uniquement, on considère que dans l'urine, il n'y a presque aucune maladie qui peut être véhiculée et que de toute façon, par le contact avec les mains, on a des gastroentérites qui circulent dans tous les sens, dans les foyers en particulier, etc. On aura beaucoup plus de contacts par ailleurs. Donc si c'est un usage strictement domestique, l'OMS considère qu'il n'y a pas besoin de stockage. En revanche, quand on est sur l'usage collectif, il peut y avoir des contaminations, en particulier des contaminations croisées avec les matières fécales selon le type de toilette. Et dans ce cas-là, il y a des recommandations qui s'appliquent. Et effectivement, ce qui, à mon sens, est très important, ce n'est pas uniquement de développer l'usage personnel, mais c'est de développer l'usage collectif parce que chez soi, on ne fait pas pousser toute la nourriture qu'on mange. Donc si on veut résoudre le problème à l'échelle, il faut organiser ça à très grande échelle. Et puis, donc, j'ai pas répondu à la question du deuxième problème, c'est le principe des substances médicamenteuses qu'on y trouve, principalement, ou ça peut être aussi des drogues ou d'autres substances, effectivement. Aujourd'hui, il y a une position internationale dessus, c'est celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le point, c'est d'abord, d'une part, pourquoi est-ce qu'on trouve ces médicaments ? La première question pour moi à se poser. Et finalement, là aussi, on pourrait réinterroger, comme je le fais aujourd'hui, comme nous le faisons dans le programme OKEPI, réinterroger l'ensemble du système de maladies, pourquoi on tombe malade, pourquoi on prend des médicaments derrière,
nos
etc.
Pratiques.
Donc là, il y a une vraie réinterrogation à faire. Une fois qu'elle est faite, on prend tout de même des médicaments. Et là, la question, c'est qu'est-ce que ça devient aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, nos médicaments, ils vont dans ces stations d'épuration qui n'ont pas été faites pour traiter les médicaments, donc ils vont en grande partie en rivière. Et par ailleurs, on met aussi déjà des médicaments par les bouts de stations d'épuration, car il y a un peu de recyclage qui s'est fait dans ces stations. Donc il y a déjà un peu de médicaments qui vont. Il n'y a pas de normes aujourd'hui. Il y a ensuite les lisiers animaux ou les fumiers animaux qui contiennent aussi des médicaments. Et donc ce que dit l'OMS, c'est en l'égard des pratiques actuelles, elle considère qu'on ne peut pas interdire l'utilisation de l'urine à cause des médicaments. Mais ce qu'on fait justement dans le programme OKEPI, c'est qu'on cherche à mieux comprendre la présence de ces substances et leur devenir.
Fabien Sculier, il faut dire qu'avec votre laboratoire, vous avez fait des essais en plein champ pour comparer évidemment les engrais synthétiques et les urines. Hein.
Exactement.
Et le résultat, c'est quoi ?
Alors, le résultat, il est en cours sur le plein champ, on n'a pas encore les résultats. L'an dernier, on l'avait fait déjà en serre, et donc en serre, on a montré une équivalence entre un engrais chimique azoté et l'urine pour ce qui est de l'efficacité de captation par la plante. La différence, c'est que dans l'urine, il y a en plus du phosphore, du potassium, etc. Alors, on avait testé principalement sur l'azote. Là, donc, on est en train de faire les essais, mais c'est des essais qui avaient déjà été conduits il y a 150 ans par les organismes nationaux agricoles français, puisqu'il y a 150 ans, il y avait énormément d'intérêts et de collecte d'urine et d'épandage d'urine.
Ouais.
Et c'est des essais qui ont été faits aussi dans plusieurs autres pays auparavant. Donc ce qu'on va chercher aujourd'hui dans notre programme, c'est à préciser tout ça, selon les types de cultures, selon les modalités d'application, et puis les risques aussi dont je parlais tout à l'heure.
Alors vous, j'imagine, vous le faites à grande échelle avec des bonnes techniques de récolte, entre guillemets, de l'urine. Ce matin, j'écoutais Mathieu dans son édito carré. Je vous l'ai dit d'ailleurs ce matin en arrivant, c'est pas un sujet quand même un peu masculin, parce que là j'imagine même des auditeurs qui écoutent, qui disent « Ah bah c'est très bien, je vais aller pisser dans mon jardin, excusez-moi l'expression, ça va faire du bien à mes plantes et à mes fleurs ». Quand on est une femme, c'est pas exactement pareil. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence comme ça de perception ? Vous êtes un homme, Mathieu est un homme, vous dites « Ah c'est génial, le pipi, on peut le récupérer », mais c'est pas pareil du point de vue féminin. Si
surtout qu'il y a une récupération dans les urinoirs par exemple, à l'école polytechnique de Zurich, voilà. Donc c'est vrai que ça concerne plutôt les mecs a priori là.
Tout à fait. Alors moi, je trouve que justement la question de l'urine permet de reposer le doigt sur plein d'autres questions, le tabou lié aux excréments et aussi l'égalité homme-femme par rapport à ça.
Oui.
Aujourd'hui, on a des toilettes à séparation d'urine qui ont été développées principalement par les Suédois dans les années 90. Celles qui sont installées en Suisse, enfin l'établissement dont vous parlez, il y a des urinoirs pour les hommes et des toilettes à séparation d'urine pour les femmes.
Mmh.
Et justement aujourd'hui, ce que j'apprécie beaucoup dans le programme OKEPI, on est à peu près moitié d'hommes et moitié de femmes dans notre programme. Là, on est une douzaine de personnes à temps plein sur le sujet. C'est que ça permet de mettre en exergue d'autres problèmes qui se posent par ailleurs, d'égalité homme-femme à l'accès aux toilettes en particulier, sur l'espace public, on le voit bien. Et par exemple, dans notre programme, on a aujourd'hui une personne qui a designé un urinoir féminin, et qui cherche justement à permettre de faciliter l'accès à des toilettes faciles d'accès, je dirais, pour les femmes autant que pour les hommes.
Donc soyons égaux face à la récupération des urines.
Y compris là-dedans, voilà.
C'est un vrai sujet, effectivement. Est-ce qu'il y a des légumes qui réagissent mieux, justement, au fait de leur mettre de l'engrais urinaire ?
Naturel.
Ouais, naturel.
Personnellement, je ne suis pas agronome. Ce n'est pas mon domaine de compétences personnelles. Il y a un collègue qui s'appelle Renaud Delose, qui est pépiniériste et qui a fait des essais sur beaucoup de plantes différentes. Il a publié un ouvrage dessus et il donne des préconisations de dosage. Il y a aussi les Suédois qui ont fait des préconisations de dosage par plante.
Et à Paris, on commence à récupérer aussi, il y a des projets pilotes dans ce domaine-là.
Le programme de recherche que je mets est un programme de recherche action. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse à la fois étudier cette question, mais aussi participer à cette transition écologique dont nous avons tous besoin. Et donc, on accompagne un projet à toute petite échelle sur notre école des ponts, avec la collecte d'urine sur un urinoir. Et puis, nous avons beaucoup d'autres initiatives, en particulier à Paris et sur le plateau de Saclay, où c'est des territoires très mobilisés.
Une dernière question très courte, avec une réponse très courte. Votre dernier geste, pas écolo.
Ah, Fabien Esculier.
Je suis canadien et français, j'ai deux nationalités. Et cet été, j'ai pris l'avion pour aller voir ma famille au Canada. Ça reste, je dirais, une des dernières questions écologiques que je me pose très fort. Mais je suis allé voir ma famille parce que c'est trop difficile et que j'ai pas trouvé d'autres alternatives. Le voilier, pour l'instant, c'est un peu trop compliqué encore à grande échelle.
Merci à vous, Fabien Esculier. Toutes les infos sur Okapi, évidemment, sur Internet pour en savoir plus. Et c'est terminé aujourd'hui pour cette Terre au Carré.